Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, faut-il liquider le cash ? Voilà une disparition qui risque fort de passer inaperçue. À partir de dimanche prochain, la plupart des banques centrales de la zone euro vont cesser d'émettre des billets de 500 euros, lesquels ont donc vocation à terme à disparaître de la circulation, sans que la plupart d'entre nous n'en ait jamais eu un seul en sa possession. Alors la fin des très grosses coupures s'inscrit dans une tendance de fond qui voit l'argent liquide perdre progressivement du terrain au profit des transactions électroniques. Les Français ont par exemple fini par adopter le paiement sans contact. Les espèces, billets et pièces de monnaie sont menacées. La lutte contre les activités illicites est un des principaux arguments avancés pour encourager cette évolution. L'argent liquide ne laisse que peu de traces. Il favorise le blanchiment, la corruption ou encore l'évasion fiscale. Mais c'est justement l'absence de traces que défendent ceux qui s'opposent à la disparition du cash. Numériser l'ensemble de nos transactions revient à livrer notre vie privée à la surveillance des banques. Un totalitarisme bancaire, en quelque sorte. Alors, faut-il liquider le cash ? C'est la question posée ce soir à trois invités. Jeanne Lazarus, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue chargée de recherche au CNRS. Vous avez publié en 2012 chez Kalman Levy l'épreuve de l'argent banque, banquier, client. Et puis plus récemment, un ouvrage collectif, Le biais comportementaliste, aux presses de Sciences Po. Pour discuter avec vous, Christian Chavagneux, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste et éditorialiste à Alternatives économiques, vous travaillez notamment sur la question des transactions financières, sur l'évasion fiscale. Et vous avez publié, vous, l'an dernier au PUF avec Marieke Louis, Le pouvoir des multinationales. Et puis notre troisième invité nous arrive tout droit d'un pays qui n'est pas vraiment un pays, qui s'appelle l'Arcanie. Il s'agit d'Emmanuel Dockès. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes juriste, professeur de droit à l'université Paris-Ouest Nanterre. Vous aviez publié chez Dalloz une proposition de code du travail. Là aussi, c'était un travail collectif où vous aviez réduit le volume du code du travail en faisant en sorte qu'il soit plus protecteur pour les salariés. Puis vous êtes dit que vous n'étiez pas allé assez loin. Et donc, vous avez, dans le cadre d'une fiction intitulée « Voyage en misarchie, essai pour tout reconstruire » aux éditions du Détour, publié en 2017, imaginé un système qui se déroule donc dans ce pays qui n'en est pas un, on aura l'occasion d'en discuter, l'Arcanie, système basé sur la liberté d'association et où l'argent liquide n'existe pas. Alors je voudrais qu'on commence notre discussion avec ce fameux billet de 500 euros. Je disais qu'on n'allait sans doute pas se rendre compte de sa disparition lorsque cette disparition sera totale parce que c'est un billet qu'on voit assez rarement circuler. Première question peut-être un peu personnelle, mais est-ce que vous en avez déjà eu un ou plusieurs, d'ailleurs peut-être en votre possession, Jeanne Lazarus ?
Hélas, non. Et j'en ai vu un une fois au guichet d'un magasin, quelqu'un qui a payé avec, et c'était effectivement très étrange. Tout le monde l'a regardé en se demandant d'où sortait ce billet, surtout que c'était pour acheter quelque chose de pas cher du tout. Donc tout le monde a pensé que c'était louche, évidemment.
Christian Chavagneux.
Jamais eu, jamais vu.
Et vous, Emmanuel Dockès ?
Pas mieux.
Alors, pas de billet de 500 euros. Dans ce système que vous avez imaginé, qui s'appelle donc la misarchie, l'argent liquide, c'est un système alors global. Vous avez vraiment pensé toute la façon dont fonctionne une société. Et c'est ce système-là où échoue un malheureux voyageur dont l'avion s'écrase et qui va finir par trouver refuge dans cette société qui fonctionne de manière assez étrange pour lui qui vient de France. Dans ce système, la monnaie a été supprimée en 1955 à la suite d'une grande votation. Pour quelles raisons les Arcaniens, appelons-les comme ça, ont pris cette décision de supprimer l'argent liquide ?
Mais la suppression de l'argent liquide est quand même quelque chose d'extrêmement pratique. C'est-à-dire que ça permet effectivement de suivre les flux financiers et ça permet donc de faire un certain nombre de réformes plus facilement, comme d'augmenter l'impôt sur le revenu à des niveaux plus élevés, d'éviter qu'il y ait des mafias, par exemple. Donc d'éviter aussi qu'on soit dans un système politique dur, avec une police plus brutale. Si vous avez des délits comme ça qui sont empêchés, ça permet de réduire aussi la pression de l'État. Donc c'est quelque chose qui présente des avantages et des dangers, naturellement, puisque l'argent liquide, c'est aussi si on la possibilité de l'opacité, donc de la vie privée, donc si vous voulez, en Arcanie, enfin dans le système imaginaire que j'ai construit en essayant d'aller au-delà de la démocratie pour faire un système beaucoup plus libre, beaucoup plus égal, l'idée a été de conserver ce moyen de contrôle, qui est le moyen de contrôle des flux financiers, pour pouvoir en quelque sorte libérer sur d'autres moyens de contrôle. C'est-à-dire que, par exemple, toutes les conversations privées sont cryptées. Par exemple, on a limité considérablement le pouvoir de l'État, on a limité le pouvoir du capitalisme, on a limité toutes sortes de pouvoirs. Et qui a gardé quelque chose, on s'est dit autant garder un contrôle sur un des ressorts du pouvoir les plus dangereux, à savoir la détention de monnaie et surtout de la détention de monnaie opaque.
Alors, est-ce que vous êtes d'accord déjà avec cette première façon de voir les choses de Christian Chavagneux, c'est-à-dire la disparition de l'argent liquide permet d'avoir un meilleur contrôle des flux financiers et donc un meilleur contrôle des dérives qui peuvent être liées à la circulation de l'argent, on parle de blanchiment, de corruption, de travail au noir aussi, d'évasion fiscale bien entendu.
Alors, c'est vrai que l'argent liquide sert à tout ça. Hein. Les billets de 500 notamment servent beaucoup, 521 millions de coupures de billets de 500, hein. C'est que 2,5% des billets. C'est peut-être pour ça aussi qu'on n'en a pas vu beaucoup. Il faut quand même rappeler que depuis 2014, aucune des banques centrales n'en imprime.
Mais c'est 2,5% des billets en circulation, mais c'est un peu plus de 20% de la valeur. Hein.
Voilà, voilà. Ce qui est normal d'ailleurs.
Hein. Oui, ils valent beaucoup plus.
Et si ça vous amuse, un million d'euros, en billets de 500, c'est 2 kilos. Seulement. Alors que si vous prenez un billet de 50, c'est 22 kilos. Donc, vous voyez que.
Donc, j'ai besoin d'une petite valise, avec des billets de 500.
Voilà. Avec 2 kilos, ça rentre dans mon cartable. Avec 22 kilos, il me faut la valise si je veux m'en servir pour des montants, pour des transactions occultes. Maintenant, aujourd'hui, se servir des billets de 500 pour les transactions occultes, c'est un peu les années 60, hein. On est dans les vieux James Bond. On n'a pas besoin, de recourir aux petites coupures pour transporter de l'argent de blanchiment ou de fraude fiscale. On a tout ce qu'il faut, de manière électronique et surtout, on a tout ce qu'il faut de manière juridique. L'argent ne se déplace jamais, en fait, lorsque vous faites de la fraude ou de l'évasion fiscale, ou même ce qu'on appelle de l'optimisation fiscale agressive. Pourquoi ? Parce que le principe du paradis fiscal, c'est simplement changer, déconnecter le lieu où l'argent est et le lieu où il est enregistré juridiquement, où le droit de propriété est enregistré, et donc où il est contrôlé, éventuellement taxé. Donc, avec nos amis fiscalistes et juristes, on n'a même plus besoin de transférer l'argent physiquement. On reste toujours à la même place. L'argent reste toujours à la même place. C'est juste le droit de propriété qui a été transformé. Et ça, argent liquide ou pas, ça ne change rien.
Alors, Jeanne Lazarus et ensuite Emmanuel Dequès qui veut réagir. Jeanne Lazarus.
Oui, non, ce qui est intéressant sur les billets de 500, c'est que effectivement, on sait qu'ils peuvent être utilisés pour des activités illégales. Mais on a vu une augmentation de la demande au moment de la crise de 2008. Ouais. Et là, en lien direct avec le fait que les gens ont vidé leurs comptes épargne dans les banques, et donc des gens très riches, mais aussi des gens avec des niveaux de patrimoine qui pouvaient être relativement peu élevés, mais en se disant qu'il valait mieux avoir la valeur d'un billet chez soi, quitte à le mettre sous son matelas, plutôt que de le laisser à la banque. Et la Banque Centrale Européenne, évidemment, a beaucoup de mal à savoir où sont les billets, mais par différentes enquêtes, considère que environ trois quarts des billets de 500 servent en fait à thésauriser l'argent, donc ne sont pas de l'argent en circulation. Donc c'est intéressant de voir que cet argent dit liquide est en fait un argent qui circule beaucoup moins que l'argent électronique, qui lui est beaucoup plus mobile que l'argent liquide.
Emmanuel Dequès.
Ce qui vient d'être dit sur la fraude est très important. Effectivement, aujourd'hui, on a des mécanismes de fraude fiscale, notamment, et toutes sortes de fraudes qui sont aidées par le droit qui construit des personnes écrans et des personnes morales de tous les côtés qui permettent de faire fuir les fonds très facilement en passant par des paradis fiscaux et par toutes sortes de zones d'opacité. Donc, très clairement, la disparition de l'argent comme moyen de contrôler les flux financiers, de l'argent liquide, n'a de sens qu'à la condition que parallèlement, on a une réforme juridique très importante qui réforme complètement le droit des personnes morales. Et notamment, toutes ces possibilités de fuite par multiplication des personnes morales. Donc, c'est pour ça que ma disparition d'argent liquide telle qu'elle est construite dans l'Arcanie, telle qu'elle est construite et souhaitée dans ce livre, n'est qu'une disparition qui n'est qu'une mesure parmi beaucoup d'autres et qui vient s'ajouter à une refonte complète du droit des personnes morales pour que la construction de personnes morales devienne beaucoup plus difficile, beaucoup plus contrôlée et qu'elle empêche évidemment ce genre de fraude.
Mais est-ce que ça veut dire, Emmanuel Dequès, que dans ce système imaginaire, la fraude n'existe plus, ou bien il y a quand même la possibilité de contourner malgré la disparition de l'argent liquide?
Il convient que dans toute société, il y ait des possibilités de déviance. L'absence de déviance, c'est le totalitarisme. Donc, il y a des moyens de contourner. D'ailleurs, on a prévu un certain nombre de moyens de contourner certaines monnaies, mais qui sont extrêmement volatiles et qui sont moins contrôlables, mais qui ne sont pas justement des euros, par exemple. Ce sont plutôt des monnaies alternatives, comme on en a dans les selles ou les choses comme ça, qui peuvent fonctionner fonctionner pour ces petites transactions qu'on veut occultes et déviantes éventuellement et qui sont indispensables au fonctionnement d'une société. Mais il faut pas que ce soit des monnaies qui soient susceptibles d'être thésaurisées et qui donc doivent pouvoir être détruites assez facilement pour éviter les risques que présente une thésaurisation d'argent occulte.
Et c'est ce que je me disais justement, c'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas un fantasme finalement dans l'idée qu'en passant d'un système à un autre, à partir du moment où il y a de la monnaie, où il y a des échanges financiers, que si on dématérialise totalement l'argent, on pourrait aller vers une société où la fraude n'existerait plus, le contournement n'existerait plus, Jeanne Lazarus et ensuite Christian Chavagneux.
Si on regarde les films de gangsters, les voleurs de banque aujourd'hui sont des hackers. Donc on a des possibilités.
Il y a eu un braquage hier sur les Champs-Élysées, hein, d'une
alors,
banque.
Oui, il reste voilà. quelques braqueurs à l'ancienne.
Quelques conservateurs.
Mais sans doute leur butin est bien moindre que ce qu'ils auraient obtenu en détournant les fonds d'une banque. Donc l'idée que parce que l'argent serait électronique, il serait protégé, c'est plutôt l'inverse d'ailleurs. C'est le problème de cet argent électronique, c'est précisément de se demander comment on peut le protéger, d'autant qu'il est diffusé entre un nombre d'acteurs très très important. C'est pas comme si on avait une seule entité qui contrôlait l'ensemble de l'argent et qui pouvait mettre des barrières technologiques de très haut niveau. La multiplication de l'argent électronique est aussi allée avec la multiplication des entreprises qui ne sont pas forcément bancaires, qu'on appelle les fintechs, qui proposent des moyens de paiement, qui proposent de faire passer de l'argent à votre ami quand vous êtes allé dîner ensemble et que c'est lui qui a payé et vous payez votre part de l'addition en lui envoyant un SMS. Tous ces systèmes-là sont à la fois très pratiques, mais évidemment posent des questions sur le niveau de sécurité qu'ils offrent. Alors l'autre
alors, il y a un niveau de sécurité qui est pour les convoyeurs de fonds, par exemple, pour le personnel des banques, parce que du coup, s'il n'y a plus d'argent liquide, il y a moins de braquage, en tout cas moins de braquage de cette manière-là. Mais c'est vrai que la sécurité, du coup, c'est peut-être, elle se retourne contre les usagers finalement, qui eux s'exposent aussi à ce que leur argent soit détourné. On a tous plus ou moins étaient déjà sans doute victimes, c'est peut-être un peu plus sécurisé désormais, mais lors des premiers achats sur Internet de fraude, parce que voilà, nos codes bancaires avaient circulé et d'autres s'en étaient servis.
Oui, alors il y a bien sûr des systèmes d'assurance parce que les banques et toutes les entreprises qui fournissent des moyens de paiement ont intérêt à ce que l'on utilise l'argent électronique, donc font en sorte que l'on soit assuré si on a ce genre de problème. Bon, c'est pas toujours le cas, mais dire que c'est directement vers les consommateurs, ce serait un peu trop rapide. Mais finalement, c'est pas forcément l'enjeu de la sécurité de l'argent qui serait plus en sécurité d'une façon ou d'une autre. C'est plutôt de se dire qu'il n'y aurait qu'un seul modèle qu'il faudrait plutôt qu'un autre. Parce que quand un modèle est dominant, forcément ceux qui cherchent à détourner l'argent vont trouver des moyens de le faire.
Ça veut dire qu'il faut plutôt favoriser un modèle mixte, Christian Chavagneux. Mais je vois que vous approuvez.
Oui, tout à fait. Je suis tout à fait Jeanne Lazarus. C'est pas qu'il faut favoriser, c'est qu'on a un modèle mixte. On n'est pas en train de remplacer le modèle du cash par le modèle du paiement électronique. On a la Banque des règlements internationaux. Alors c'est une institution qui est très peu connue. C'est la banque centrale des banques centrales. On dit, elle regroupe les banquiers centraux. C'est la seule étude récente que j'ai trouvée sur comment est-ce qu'on fait pour payer en fait un petit peu partout dans le monde. Et la banque des règlements internationaux nous dit la valeur des achats qui sont faits avec la carte de crédit, par exemple, hein, c'est passé de l'équivalent de 13% de la richesse produite en 2000 à 25% en 2016. Donc on dit voilà, c'est l'ère de la société du paiement électronique. Mais en même temps, on nous dit le paiement par cash sur la même période, c'est passé de l'équivalent de 7% de la richesse produite dans le monde à 9%. Et ça rejoint tout à fait l'explication qui est donnée, c'est celle que donnait tout à l'heure Jeanne Lazarus, c'est-à-dire que dans les pays riches, pas dans les pays pauvres, dans les pays émergents, dans les pays riches, on a vu des gens après la crise financière sortir de l'argent liquide des banques, le garder chez soi, et c'est ce qui explique la montée, le boom de la détention du cash qui n'est pas du tout en train de disparaître. Et toujours pour rebondir sur ce qu'elle a dit, pour marquer mon accord aussi, le fait que les banques et les sociétés de communication ont intérêt à pousser à ce qu'on passe à l'argent électronique ne fait que renforcer leur profit, entre guillemets. C'est un journaliste allemand qui m'a donné cette idée. Il a été surpris de voir qu'il y avait beaucoup de pays du tiers-monde, les Philippines, le Malawi, des petits pays qui ont autre chose à penser que de savoir si on paye en paiement électronique ou en cash, voir tous les présidents dire on va tous passer à une société sans cash. Il s'est demandé pourquoi, il s'est aperçu qu'en fait, c'était le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la coopération américaine qui disaient il faut passer à une société sans cash. C'est une alliance en faveur...
Mais pour quelle raison ?
c'est une alliance de businessmen en faveur de la société sans cash qui visiblement apporte de l'argent, des conseils, de la technique. Et bien évidemment, on trouve qui derrière ? PayPal, Mastercard, les grandes banques américaines qui sont en train de pousser partout dans le monde à la fin du cash pour pouvoir profiter de toutes les commissions, de tout ce qui peut toucher au fait qu'on passe à l'électronique. Et se rajoute, ce qu'a dit Jeanne Lazarus, toute la cybersécurité. Toutes les entreprises de cybersécurité, tout le cyberhackage aujourd'hui, c'est en train d'exploser et de prendre une partie de la valeur ajoutée du secteur financier.
Mais ça, c'est parce que ces organismes sont rémunérés justement pour faire des transactions. Ça n'existe pas justement en misarchie dans ce système arcanien que vous décrivez, Emmanuel Dauquès. Et d'ailleurs, ça fait partie... Alors, il y a ce personnage qui vient de France et qui s'étonne de ce qui est mis en place justement dans ce système. Quand il explique que justement, en France, par exemple, il y a des frais bancaires, ça, les gens qui vivent en Arcanie disent, mais comment c'est possible ? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut faire payer pour mettre à disposition de l'argent, quoi ?
C'est-à-dire, à partir du moment où vous n'avez pas d'argent liquide, l'idée selon laquelle on va vous taxer sur votre monnaie devient quelque chose de très très vite choquant en réalité. Surtout si vous avez très peu de monnaie et qu'on commence à vous en prendre tout de suite une partie, ça crée des difficultés terribles. En fait, la suppression de l'argent liquide est vraiment quelque chose qui peut, si ça vient s'ajouter à toute une série d'autres facteurs terribles qu'on a dans notre société, être un facteur aggravant de plus. C'est-à-dire qu'on a une société du contrôle qui monte très fort, on a les big data, on a ce qui se passe actuellement en Chine avec l'évaluation constante des personnes, on a la potentialité d'une société despotique qui monte très très fort et qui est vraiment très inquiétante. Et si on rajoute à ça la suppression de l'argent liquide, ça fait du despotisme qui vient se rajouter au despotisme et c'est quelque chose qui ressemble plutôt à un cauchemar. C'est seulement dans l'hypothèse où on est dans une société qui est beaucoup plus démocratique que la nôtre que cet outil-là devient un outil qui peut devenir tout à fait vertueux en éliminant à moindre frais un certain nombre d'utilisations mafieuses ou d'utilisations même capitalistiques dangereuses de la monnaie liquide.
Et votre héros d'ailleurs s'inquiète justement de cette société, enfin qu'il considère a priori comme une société Big Brother. J'évoquais le totalitarisme bancaire, ça c'est une expression que j'ai empruntée à votre livre. Et il y a quelqu'un qui lui répond à un moment donné quand il dit justement mais on est quand même sous surveillance permanente avec votre système. Quelqu'un qui lui répond... Tous les moyens du pouvoir sont effrayants, tu sais. La violence, le dressage, la peur, l'avidité. Alors que privilégier ? La préférence donnée en Arcanie pour la transparence financière est un choix. C'est-à-dire quitte finalement à devoir subir une forme de contrôle, autant que ce soit celui-là plutôt qu'un autre.
En fait, pour lutter contre la domination, pour lutter contre le pouvoir, ce qui est l'objectif de tout démocrate normalement constitué, il faut malheureusement utiliser la même chose que ce contre quoi on lutte. C'est-à-dire c'est la vieille histoire de Montesquieu, contre le pouvoir, il n'y a pas d'autre solution que de mettre du pouvoir en face. Il faut faire des contre-pouvoirs, il faut faire des balances. Et donc vous utilisez le mal que vous combattez en même temps que vous l'utilisez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a cette difficulté-là. Et alors toutes les sortes de pouvoirs ne sont pas équivalentes. Le pouvoir avec des armes à feu, c'est une chose. Le pouvoir avec de l'argent, c'en est une autre. Le pouvoir par la... Bon. Et à ce moment-là, il s'agit de chercher quels sont les outils du pouvoir les moins nocifs, en quelque sorte, pour essayer de contrebalancer les outils du pouvoir les plus nocifs qu'on essaye de diminuer par ailleurs. Et la transparence financière est un moyen de pouvoir, un moyen de contrôle, mais c'est pas le moyen de contrôle qui me semble le plus dangereux. Il y a beaucoup d'autres moyens de contrôle qui me semblent pires ou plus inquiétants, et donc c'est pour ça que ce moyen-là, je préfère l'utiliser, quitte à évidemment raboter les autres, pour qu'à la fin, évidemment, il y ait beaucoup plus de liberté que dans la société dans laquelle on vit.
Qu'est-ce que vous en pensez, Jeanne Lazarus ?
Penser que l'argent est un moyen de pouvoir, évidemment. Après, les supports de l'argent à toute époque sont forcément des grandes questions pour un gouvernement, pour un pays, de savoir comment on fabrique de la monnaie, qui va être garant de la valeur de la monnaie. Et ce qui est intéressant dans l'histoire de la bancarisation française, c'est que le gouvernement a d'abord travaillé à ce que les Français rentrent dans la banque. Et on a cette histoire, on l'a de la même façon dans tous les pays d'Europe. Quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui dans
des pays...
Parce
qu'il y avait une volonté de contrôle derrière ?
Alors, c'était pas tellement une volonté de contrôle. C'était une volonté de faire sortir l'argent des bas de laine, que justement les billets de banque ne soient plus sous les matelas, mais qu'ils soient dans le circuit financier pour servir à financer plutôt l'industrie. Hein. À l'époque de la bancarisation, la fin des années 60, ce qu'a en tête le gouvernement, c'est qu'il y a de l'argent qui n'est pas utilisé pour financer l'industrie. Donc c'est vraiment de faire circuler plus rapidement l'argent. Et ce que j'avais étudié, c'est que finalement, on s'habitue très vite à des changements. Les Français, en quelques années, en 5 ans, en gros, entre 66 et 73, on est passé de 20% de la population qui avait un compte en banque à 75%. Donc, très rapidement, des gens qui utilisaient jusque-là uniquement du cash se sont mis à utiliser des supports bancaires. Et donc, ce qu'on peut déduire, et on le voit dans tous les cas, c'est que le jour où le support change, on s'habitue au nouveau support parce que on est forcé de faire avec, parce qu'on a tellement besoin dans le monde monétarisé dans lequel on est, on a besoin d'avoir des supports de l'argent. Et je vois que dans votre pays imaginaire, vous n'avez pas supprimé l'argent. Vous avez supprimé l'argent liquide, mais vous n'avez pas allé jusqu'au bout.
Il y a une monnaie, hein, voilà.
Et supprimer l'argent, on a pour l'instant beaucoup de mal à imaginer un moyen de le faire.
Sur la question de la vitesse de circulation, Christian Chavagneux, est-ce que justement la dématérialisation de l'argent peut permettre d'accélérer justement sa circulation et donc de favoriser peut-être aussi l'activité économique? Moi, j'ai lu quelque part que c'était quelque chose que certains économistes en tout cas considéraient comme utile, notamment en période de taux d'intérêt négatif. Alors, je profite de l'économiste pour nous expliquer.
Jeanne Lazarus a bien expliqué le mécanisme. Dès la fin du 19e siècle, en fait, dès la deuxième moitié du 19e siècle, en France, on a des banques de dépôt. Et les banques de dépôt commencent déjà à bancariser, en quelque sorte, la population française. C'est ce à quoi on fait référence lorsqu'on parle d'inclusion financière. Tous ces gens qui ont des petits revenus, qui beaucoup en liquide et qu'on veut remettre dans le système bancaire pour faire tourner l'argent, pour que ça puisse financer l'économie. En France, on a bien évidemment, bien avant le 18e siècle, de John Law, qui déjà, lui, disait « Vous êtes avec vos petites pièces de rien du tout et vous donnez des crédits en fonction du stock d'or et d'argent que vous avez, mais vous êtes en train de plomber l'économie française. Pour la relancer et réduire le déficit budgétaire, il faut passer au billet. » On sait ce que le système de Law a complètement explosé. De ce point de vue, moi, ça ne me dérange pas que les banques soient les premières créatrices de la monnaie, en fait, parce que là, on parle des supports, mais d'où vient, on parlait des pouvoirs aussi. C'est pas vraiment l'État ou la Banque Centrale Européenne aujourd'hui qui détiennent le pouvoir. Ce sont les banques commerciales, la BNP, la Société Générale, toutes ces grandes banques qui créent, qui sont les principales sources de création de monnaie lorsqu'elles nous font des crédits et qu'elles créditent nos comptes en banque, ça ne me dérange pas à partir du moment
où... Ça vous dérange moins que ce soit des sociétés privées qui finalement exercent ce contrôle plutôt que...
Heureusement qu'il y avait ces grandes banques, sinon on en sera encore à regarder le stock d'or dont on dispose pour pouvoir financer l'économie. Elles créent de la monnaie ex nihilo, simplement comme ça, avec un jeu d'écriture, et heureusement, c'est tout le développement. Ça, c'est le bon côté du développement du capitalisme, mais bien sûr, la contrepartie, c'est un pouvoir, il faut un contre-pouvoir. Voir une bonne régulation bancaire.
France Culture, du grain à moudre. Hervé Gardette.
Faut-il liquider le cash? C'est la question que nous posons ce soir, alors que d'ici quelques jours, la plupart des banques centrales de la zone euro vont cesser d'émettre des billets de 500 euros. Avant de poursuivre la discussion, en compagnie de nos invités, Emmanuel Dockès, qui est professeur de droit, Jeanne Lazarus, qui est sociologue chargé de recherche au CNRS, et Christian Chavagneux, éditorialiste à Alternatives économiques. Je voudrais vous faire écouter l'extrait d'un reportage qui date d'il y a une vingtaine d'années. On est en juin 97 sur France 3 dans l'émission La Preuve par 3, et on parle beaucoup de quelque chose qui est un petit peu sorti des viseurs aujourd'hui, les selles, les systèmes d'échange locaux qui étaient très à la mode il y a une vingtaine d'années. L'idée, c'était d'organiser autrement les échanges.
C'est en Ariège, à 70 km de Toulouse, que le SEL, système d'échange local, a trouvé une terre et un groupe d'accueil. François Théry, c'est un des pionniers du SEL à la française. Son style, aventurier de la vie sociale, lui, pour qui le monde financier ne tourne pas rond, préfère les initiatives locales. S'il faut un système d'organisation, c'est le SEL qu'il choisit, et le grain pour unité de base. Avec un faux air de chéquier, voici le carnet de bons d'échange. Il concrétise une vieille idée, et si un jour on pouvait se passer de l'argent?
L'idée, c'était qu'on pouvait se passer de l'argent et continuer à vivre, et éventuellement vivre bien. Ça, c'était une idée tout à fait nouvelle.
Pour les vaches.
Philippe, c'est l'ami hollandais qui vit en Ariège. Il a vu fonctionner ailleurs, en Europe, des systèmes d'échange locaux. C'est un peu grâce à lui que l'expérience a démarré dans cette région en octobre 1995.
Le SEL est local. Le sel permet l'échange local et permet le développement d'une communauté locale. Et peut-être le danger de la mondialisation, c'est de démolir des communautés locales au profit d'autres communautés.
Bon, Emmanuel Dockès, dans votre voyage en Mésarchie, finalement, vous n'avez rien inventé, vous avez tout piqué au sel.
Mais il y en a. Bon, il y en a. Alors, première chose, il ne s'agit pas d'une disparition de la monnaie. Même le sel, c'est une forme de monnaie qui est organisée sur une base privée, mais qui est quand même une forme de monnaie. Donc, je pense, moi, que la monnaie est très, très utile, surtout si on veut conserver un minimum de division du travail, ce qui est drôlement pratique. En revanche, on peut se demander quelle place il faut laisser à ce genre de monnaie un peu privée, et aussi à qui est-ce qu'on va donner les clés de la création monétaire et les clés de la maîtrise de la monnaie. Et il me semble que c'est un pouvoir absolument important que de pouvoir gérer une monnaie, que de pouvoir décider d'une augmentation de la masse monétaire ou d'une baisse de la masse monétaire, et que là on parlait de régulation du système bancaire. Je pense qu'il faut aller relativement loin dans cette direction-là, surtout si on imagine un contrôle qui est vraiment sur une base démocratique. Je pense pas que cette question-là, à savoir le pouvoir sur la masse monétaire, sur l'argent et sur son fonctionnement, peut être laissée à une espèce de fonctionnement technocratique et ou pire commercial comme ça existe aujourd'hui.
Ces systèmes d'échanges locaux dont on parlait beaucoup il y a quelques années, on en parle beaucoup moins. Alors j'ai pas plus cherché aujourd'hui pour savoir ce que ça représentait, Christian Chavagneux, mais j'ai l'impression
que d'échanges locaux, monnaie locale, mes amis de Montreuil avec la pêche, les banques du temps, il y a des dizaines de milliers d'initiatives partout dans le monde, et plus aujourd'hui qu'hier. Donc ça, c'est le type de monnaie alternative entre guillemets. Il y en a vraiment beaucoup, mais la conclusion des chercheurs, c'est de dire que ça reste très très local. Attention aux impôts, parce que tout ce que les transactions que vous faites marchandes avec ces petites monnaies, elles échappent aux impôts. Donc si on veut aussi avoir des services collectifs, il faut aussi avoir des impôts. Et ça ne marche que lorsque les mairies ou les régions soutiennent. Mais encore une fois, ça reste extrêmement local.
Si ça reste extrêmement local, est-ce que c'est pas aussi parce qu'il y a quand même un fort attachement à ce que représente justement notre monnaie, et aussi dans sa version matérialisée, Jeanne Lazarus, c'est-à-dire que avoir des pièces, avoir des billets dans sa poche ou dans son porte-monnaie, quelque chose. Moi, ça, je pensais un petit peu, je sais pas si l'analogie vous paraîtra pertinente ou pas, mais au débat qu'il y a eu il y a quelque temps là aussi sur le livre papier versus le livre électronique, avec ceux qui défendent le livre papier disent voilà, il y a notamment le côté tactile, on touche l'objet et c'est quelque chose qui est important. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette dimension là avec l'argent, c'est-à-dire pouvoir toucher des billets, pouvoir toucher des pièces, c'est aussi pouvoir toucher ce qu'on possède, qui n'existe pas avec une carte bancaire?
Alors effectivement, il peut y avoir un sentiment de possession très fort avec les billets de banque. En même temps, si on regarde dans nos vies quotidiennes, on touche relativement peu l'argent. La plupart de l'argent que l'on reçoit, il est sous forme électronique. Les gros montants transitent par virement, par prélèvement automatique. Donc, la part de l'argent que l'on touche réellement reste relativement faible. Pour autant, ça peut être un moyen un conseil qui est donné dans les gens sont en difficulté financière par des assistantes sociales ou les conseillères en économie sociale et familiale qui suggèrent aux personnes, pour mieux voir où va leur argent, de retirer en liquide l'argent et donc de pouvoir se dire pendant la semaine, j'ai tant et je ne dépense que ce que j'ai pris, donc je le vois concrètement. Mais c'est en général dans des situations où vraiment il faut compter à l'euro près, parce qu'une des choses que la bancarisation et que cette monnaie électronique fait, c'est que l'argent est beaucoup moins saisissable. Et donc il est moins saisissable, on sait moins où il est, et puis il empêche ce que la grande sociologue de l'argent, Vivienne Zelizer, a nommé le marquage de l'argent. C'est-à-dire qu'elle a montré, en s'intéressant aux façons de gérer les budgets dans les ménages ouvriers à la fin du 19e siècle, elle a montré que l'argent était marqué, que c'était comme ça que faisaient des femmes qui avaient très très peu pour faire vivre toute une famille. Il y avait l'enveloppe pour le charbon, l'enveloppe pour le loyer, l'enveloppe pour la nourriture, et que on ne prenait pas, c'était totalement sacrilège de prendre de l'argent dans l'enveloppe du charbon pour payer la nourriture. Et ce marquage-là, elle montre qu'il continue, c'est-à-dire que on a toujours l'argent pour nous n'est pas fongible, c'est-à-dire que tout argent n'est pas le même. L'argent qu'on a reçu en cadeau, l'argent qu'on a reçu par son salaire, l'argent qu'on reçoit par prime, ça n'est pas le même argent et on ne l'utilise pas de la même façon.
Et est-ce qu'on constate d'ailleurs aussi peut-être une façon d'utiliser soit l'argent liquide, soit la carte bancaire en fonction, disons, des milieux sociaux, en tout cas capacités financières des uns et des autres. Je ne sais pas si Christian Chavagneux,
c'est-à-dire... Moi, la seule information que j'ai, c'est la façon dont les Français utilisent les cartes de paiement et le liquide par rapport aux autres pays européens. Et nous, Français, nous sommes ceux qui utilisons pratiquement le moins l'argent liquide. C'est seulement 28% de nos transactions du quotidien. On est à l'avant-dernier rang dans l'ensemble de l'Union européenne. Il n'y a que les Pays-Bas qui font moins que ça. Donc nous, il y a un facteur culturel. Je ne sais pas si c'est un facteur social, il y a un facteur culturel, c'est sûr. Et nous, en France, on est parmi ceux qui utilisent le moins l'argent liquide.
Je dirais aussi qu'il y a un facteur institutionnel, c'est-à-dire que les banques en France, ce sont aussi parce que le système bancaire français est très concentré. On a des très grandes banques depuis longtemps, même s'il y a beaucoup de petites banques, mais on a de très puissantes grandes banques qui se sont relativement tôt par rapport à d'autres organisées autour du système de la carte bleue. Donc la carte bleue a été très vite diffusée et utilisable, puisque la carte bleue, c'est toujours un problème de concordance, c'est-à-dire qu'il faut...
En plus, on est les inventeurs de la carte à puce.
On avait la technologie, mais c'est important.
On avait la technologie, et puis donc il faut des consommateurs qui ont la carte pour que les vendeurs s'équipent du moyen de paiement qui coûte assez cher. Et ça a été rapidement fait en France. Donc on est habitué, entre guillemets, depuis longtemps à l'usage de la carte bleue, et ça explique aussi ça. Autre grande spécificité française, c'est le chèque. Et là, je crois que les Français font la moitié des chèques de toute l'Union européenne.
Même si ça diminue,
ça diminue beaucoup, mais parce que c'est gratuit. Et ça, c'est aussi un choix initial au moment de la bancarisation, de décider que les chèques seraient gratuits. Donc ça fait que les Français, depuis très longtemps, en fait, sont habitués à ne pas payer des grosses sommes en liquide, mais à les payer en chèque ou par carte.
Emmanuel Dockès, en Arcanie, système basé sur la liberté, je disais la liberté d'association, c'est-à-dire aussi d'adhérer à des systèmes locaux différents. Il y a aussi une autre valeur qui est très importante, qui est aussi la valeur qui apparaît dans notre devise républicaine, qui est celle de l'égalité. Les inégalités, notamment justement de niveau de vie, sont contrôlées. En tout cas, elles sont beaucoup moins importantes qu'elles ne peuvent l'être, par exemple, aujourd'hui en France. Est-ce que vous faites un lien, vous, justement, dans votre système, entre la disparition de l'argent liquide, entre ce contrôle des transactions financières et la capacité à avoir une société plus égalitaire?
Le lien est très simple, c'est à partir du moment où vous avez un meilleur contrôle des flux financiers, je dis un meilleur contrôle des flux financiers dont la disparition de l'argent liquide n'est qu'un des aspects finalement assez minoritaires. Mais à partir du moment où vous avez un très bon contrôle des flux financiers avec un très bon contrôle notamment des personnalités morales et de tous les moyens de faire fuir les fortunes et de thésauriser en douce en quelque sorte, un très bon contrôle permet d'envisager des mesures qui sont des mesures de réduction importante des inégalités, comme par exemple des taux d'imposition qui sont élevés, comme on a pu en connaître après la Deuxième Guerre mondiale et jusqu'à l'ère Thatcher en Angleterre, avec des taux d'imposition qui pouvaient monter sur l'impôt sur le revenu jusqu'à 80% du revenu pour les tranches supérieures. Si vous voulez avoir un impôt qui permet vraiment de réduire les inégalités en faisant payer les très très riches, je parle vraiment des très très riches, eh bien il convient d'avoir un contrôle des flux financiers très important. Sinon, ça va pas marcher. Ils vont tout planquer. Et donc, pour que ça marche, il faut c'est une mesure qui fonctionne. Et on a beaucoup d'autres exemples qui permettent de montrer que c'est par le contrôle du flux qu'on arrive aussi à réguler l'inégalité financière.
Mais en même temps, il planque pas tout, parce que l'ISF, avant que notre président de la République ne supprime, nous ramenait quand même 5 milliards d'euros par an, donc c'était pas négligeable. Plus, à chaque fois qu'on gagnait de l'argent, parce qu'on détenait des actions, on recevait des dividendes, parce qu'on faisait des prêts, on recevait des intérêts, tout ce rendement du capital était taxé autour de 45-50%. Notre président de la République l'a ramené à 30%. On a reperdu 2 milliards, donc 4 milliards d'un côté, 2 milliards de l'autre, vous avez 5-6 milliards d'argent de perdu. Donc la principale mesure à prendre, c'est le débat, c'est le débat fiscal, plus que le débat sur le contrôle, bien évidemment, même si après 20 ans et 3 livres sur les paradis fiscaux, c'est pas moi qui vais dire que c'est pas important de contrôler les flux financiers, bien sûr.
Il y a quelque chose, moi, que j'aime bien dans l'argent liquide, c'est que je sais combien ça vaut. Un billet de 10 euros, a priori, ça Ça vaut 10 euros. Quand on est dans
C'est pas sûr.
C'est pas sûr. Pourquoi c'est pas sûr?
Parce qu'il y a de l'inflation. Et puis, l'inflation n'est pas la même pour tout le monde. L'INSEE a créé l'indice des prix à la consommation au début du XXe siècle parce que les ménagères françaises se plaignaient en disant avec le salaire qu'on a, on n'arrive plus à acheter des choses. Donc l'INSEE a dit, il faut qu'on regarde. Donc ils ont créé l'indice des prix à la consommation, qui est un indice des prix à la consommation ouvrier. Ils n'ont eu de cesse de l'ouvrir pour que ça couvre plus seulement les ménages ouvriers, mais tous les ménages. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? L'INSEE nous donne un petit tableur sur lequel on a notre inflation individuelle. On est complètement à côté de la plaque. Alors oui, mais par contre, ça nous permet de voir que comme les prix de ce qu'on achète, qu'on n'achète pas tous la même chose, les prix relatifs de ce qu'on achète sont différents pour chacun. Et donc, mes 10 euros valent pas la même chose que vos 10 euros.
Bon, alors, je vais dire les choses autrement. Je vais au guichet d'une banque. Je demande à retirer 10 euros, 20 euros, 100 euros. C'est de l'argent. On va me fournir cette prestation gratuitement à partir du moment où je passe par un système de cartes, soit de distributeurs automatiques de billets, soit des transactions qui peuvent être numériques. Ça va me coûter quelque chose parce que je vais avoir des frais bancaires. Est-ce que un des intérêts de l'argent liquide, ça n'est pas justement ça? C'est-à-dire que ça me coûte moins cher. Alors, ça rapporte moins à la banque. C'est sans doute pour ça aussi qu'il y a une disparition des guichets dans les banques, non, Jeanne Lazarus?
Alors, c'est pas du tout gratuit si vous allez au guichet de votre banque. C'est beaucoup moins cher de prendre de l'argent avec votre carte bleue. Là,
Comment ça, c'est pas gratuit si je vais au guichet de ma banque?
Non, c'est pas gratuit. Les banques font payer cela en considérant que vous êtes censé le faire vous-même. Donc, c'est une vraie difficulté pour...
Je vous avoue que ça fait longtemps que je suis pas allé au guichet, justement. Moi, en général, je retire au distributeur parce que je paye ma carte bancaire.
Oui, vous payez votre carte bancaire. Ouais. Alors, si vous êtes dans une situation financière particulière, vous pouvez avoir accès à des formes de droits au compte, etc., qui vous donneront accès gratuitement à l'argent liquide. Mais ça n'est pas gratuit. C'est une des difficultés. C'est qu'il n'y a aucun moyen d'accès à l'argent qui, pour le moment, est gratuit.
Emmanuel Dockès.
Oui, on a là quelque chose de particulièrement scandaleux, c'est qu'effectivement, si vous n'avez pas de carte bancaire, c'est parfois parce que vous avez eu des difficultés de paiement et parfois parce que vous êtes en difficulté financière et que vous avez été interdit bancaire. En fait, les moyens de paiement ne sont pas à la disposition de tous. Et certains moyens de paiement ne sont réservés qu'à ceux qui ont finalement suffisamment d'argent. Et ce qui fait que si vous n'avez pas de carte bancaire pour retirer dans un distributeur, vous devez aller au guichet et au guichet, c'est payant. Ce qui fait que lorsque vous êtes pauvre, on vous fait payer plus cher votre argent que lorsque vous êtes un peu plus riche. Et même quand vous êtes vraiment très riche, votre argent vous rapporte beaucoup. Donc plus on est riche, plus on gagne. Plus on est pauvre, plus on paye pour utiliser l'argent. Bon, évidemment, c'est un système violemment inégalitaire et très condamnable.
Précise là-dessus, il existe une offre clientèle fragile qui a été justement mise en œuvre pour que, si l'on est très pauvre, on puisse, enfin très pauvre ou en difficulté, l'on puisse avoir accès à son argent avec une carte qui permettra de faire des retraits. Mais les banques ne veulent plus distribuer de l'argent au guichet.
Et je disais que j'étais très attaché à l'argent liquide, mais finalement peut-être pas tant que ça, parce que je suis préoccupé par les questions environnementales. Et alors figurez-vous qu'il y a eu il y a quelques années de ça une étude de la FBF, Fédération Bancaire Française, sur le bilan carbone comparé entre l'argent liquide et l'argent dématérialisé. Le paiement en espèces, c'est 22 grammes équivalent carbone, parce qu'il y a de l'encre, il y a du papier, il y a du transport. Le paiement par carte bancaire, c'est 3 grammes. Que pensez-vous de ce genre d'argument,
Christophe Chavagneux? Je pense qu'il est valable. Ma seule inquiétude, c'est celle qui est d'Emmanuel Dockès au début de l'émission, à savoir que si on ne paye plus rien par argent liquide, tout est traçable et s'il n'y a plus rien d'anonyme à ce moment-là, ça veut dire qu'on est tous susceptibles, les Amazon, etc., tout ce qui ne passe par ce type de paiement, alors on va être tracé complètement. L'argent liquide, c'est ce qui nous reste un peu comme autonomie pour pouvoir acheter des choses dont personne ne sait ce qu'on a acheté, ni à quel moment, et on peut pas faire de calcul avec des data scientists dessus pour essayer de nous refourguer un autre produit. Donc moi, mon inquiétude est celle du début de l'émission d'Emmanuel Dockès. Sinon, je suis plutôt favorable au paiement, bien sûr, électronique, plutôt que de payer par ces outils absolument préhistoriques que sont le billet et le carnet de chèques.
Alors pour répondre à ça, évidemment pas de suppression d'argent liquide avec une montée du despotisme comme on la connaît. Et deuxièmement, dans le système que j'ai imaginé, évidemment la traçabilité est quelque chose qui est contenu de façon très forte, c'est-à-dire qu'il y a c'est une profession spécifique qu'on appelle les traceurs et c'est seulement dans le cadre
ce sont des changes en plus qui sont temporaires, oui, voilà, tous les 4 ans
c'est très temporaire, on les change, c'est dans le cadre d'une procédure judiciaire. Il faut, si ça revient à diffuser des espèces de big data avec tous les comptes, c'est toute la vie privée qui est diffusée en grand et c'est une catastrophe. Et évidemment tout ça est rigoureusement impossible dans le système ultra démocratique que j'ai construit, je vous rassure.
Est-ce qu'on joue au Monopoly d'ailleurs en Arcanie, Emmanuel Dockès?
Mais on adore tous les jeux et même les plus les n'est plus...
Parce que c'est vrai qu'il y a des billets. Hein,
mais oui, au contraire.
Et je vous conseille l'anti-monopoly, qui est un très bon jeu.
Ah, oui, non, mais tous les plaisirs sont autorisés, y compris ceux qui sont un petit peu malsains, avec un peu d'argent notamment.
Et ben voilà, si on veut en savoir davantage sur ce système arcanien, je conseille le Voyage en Mésarchie, donc Essai pour te reconstruire, que vous avez publié, Emmanuel Dokès, aux éditions du Détour. Je renvoie également Jeanne Lazarus vers, bon, on va plutôt citer peut-être le dernier livre, Le Biais Comportementaliste, c'est ça?
Oui.
Aux presses de Sciences Po, avec un certain nombre de co-auteurs. Et puis si, bah, disons-le, allez, Jeanne Lazarus, L'Épreuve de l'Argent, chez Kalman Lévis, c'est un peu plus ancien. Christian Chavagneux, vous disiez, vous avez publié un certain nombre d'ouvrages, dont le dernier, Le Pouvoir des Multinationales, au PUF, dans la collection La Vie des Idées. Merci à toute l'équipe du Grain, Fanny Richer, Antoine Tricot, Virginie Leduo, Antoine Dulster et Guillaume Laguigné, émission réalisée par Peyre et Legras, avec à la prise de son Pierrick Monsigny.